ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lane, Zichrona Livracha, la question de commune de Jordan et de Dan. Jordan.
Alors pour commencer, comment on peut travailler sa colère? On sait que c'est une des midas les plus difficiles à travailler pour un homme. On va dire que ça touche notre orgueil, notre fierté. Alors comment la travailler?
Ok. Et Dan?
Moi, c'est admettons qu'on arrive à travailler par exemple sa colère ou d'autres midas. Comment ne pas prendre un peu la grosse tête et être plus modeste, ou même tout simplement, même si on n'est pas dans tout ça, dans ce qui est travail sur soi-même et tout, comment en règle générale travailler plus sur sa modestie, devenir quelqu'un plus humble?
Ok, ça se rejoint. Donc colère, modestie, et bien qu'on arrive à travailler nos midot, pas qu'on commence à croire qu'on est quelqu'un à cause de ça.
Voilà.
Bon, d'abord, il y a une erreur commune. C'est pas parce qu'on sait qu'on a des grandes qualités qu'on n'est pas pour autant humble. C'est pas contraire. On voit bien que Moshe Rabbeinu a écrit la Torah et il raconte qu'il va au Mont Sinaï 3 fois 40 jours parler avec Dieu, sans manger ni boire. Il écrit même dans la Torah Moshe Rabbeinu qui est le plus humble des hommes. Il faut le faire, hein. Tu me dis ça, Dan, je te dis, t'as un problème aigu d'orgueil. Mais c'est pas un menteur. Et à la fin de la Torah, il écrit lui-même, avant de mourir, que ne s'est pas levé dans le peuple d'Israël un prophète aussi grand que Moshe. Donc, je suis vraiment quelqu'un, te dit-il. Alors comment il peut écrire « je suis le meilleur » et « il est le meilleur » ? J'ai même vu dernièrement qu'il sera plus haut en prophétie que Mashiach. Moshe Rabbeinu. Mashiach sera un grand homme, sera un roi d'Israël, mais en prophétie, Moshe, c'est celui qui a descendu la Torah du ciel. Et dans le ciel, il l'a amené sur terre. Ça, c'est unique dans l'histoire, et c'est que Moshe Rabbeinu qui a pu faire une chose pareille. Donc d'un côté, c'est un homme d'un calibre énorme, et d'un autre côté, il dit, je suis le plus humble des hommes qu'il y a sur la terre. Alors, l'humilité, c'est quoi? C'est pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire dire je suis un raté. Non, j'ai de très bonnes qualités. Je suis aimé par Dieu. J'ai des qualités. J'ai des bonnes midotes. Des fois, je suis doué pour certaines choses. Mais, j'ai rien fait pour. C'est pas à moi que je fais comme ça. C'est à Hachem que je fais comme ça qui m'a donné. J'ai rien fait pour. Moshe Rabbeinu, il est tellement émette, il est tellement juste, qu'il sait très bien que c'est pas parce qu'il a fait des choses extraordinaires qu'il est prophète. Et même si on va dire que certainement il a travaillé, la première fois où Moshe Rabbeinu, Dieu lui parle, il avait quel âge? 80 ans. 80 ans, il a bossé. Bossé pour se sanctifier. À la fin, 80 ans, il voit le buisson, un truc machin, hop, c'est Dieu lui parle. Donc il a bossé. Donc il peut dire, mon cher ami, j'ai bossé. Oui, mais t'as bossé, mais qui t'a donné la force de bosser? Qui a donné une âme qui a envie de bosser? En fin de compte, si on fait le statut de nous-mêmes, on n'est rien. On n'est rien. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a fait certains efforts, que grâce à ça, on aurait peut-être droit. Et c'est vrai. Dieu a créé le monde imparfait, avec beaucoup de mal, pour qu'on puisse bosser, faire des efforts et dire « j'ai droit ». Mais à quoi t'as droit? Dieu nous donne, par rapport à ce qu'on a fait, l'infini. T'as investi un millimètre, t'as investi. T'as fait une bracha avant de manger. T'as pas regardé une fille dans la rue. Mais pour ceux qui sont venus, tu l'as écarté. Tant que vous l'avez à la mer, t'es pas allé, non, je vais lire une page de Gemara. C'est un investissement. Mais combien ça vaut en argent? 500 shekels, 1000 shekels, 2000 shekels, allez, 2000 shekels, d'accord. 2000 shekels, t'es prêt pour une fois pas regarder une fille? T'es prêt, même 1000 fois à ce prix-là, hein. Ça, on s'achète une maison. Ben pour ça, pour une fois, t'as un salaire infini, finira jamais. Du HM, pas des sucettes sans cesse, du HM sans cesse, du HM sans cesse. HM, c'est meilleur que toutes les sucettes au monde. Je peux m'exprimer ainsi, d'accord? C'est Hachem. Donc, bien qu'on peut dire qu'on a droit, Dieu aussi, il nous donne tout. Même le petit droit quota, il est tout minus. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a des qualités. On a aussi des défauts. Mais on a des qualités, on n'a rien fait pour. C'est pas parce que j'ai une qualité que je prends pour ce que je ne suis pas. L'autre jour, on a parlé de la richesse. C'est quoi le danger? Tu dis, pourquoi? J'ai fait des affaires, j'ai de l'argent, je suis quelqu'un, preuve en est que tout le monde me fait des salam alek. C'est ça le grand piège. Quand les gens commencent à nous faire du salam alek, on s'habitue à ça très vite. Mais on sait très bien, demande aux personnes qui ont fait de l'argent, c'est grâce à toi. Il y a une bonne idée, une bonne affaire, qui a donné la bonne idée, qui a fait que tu as rencontré la personne qui t'a donné le bon filon. C'est rien. T'es un bon commercial. Ok, alors. T'es né bon commercial. On t'a donné ça. T'as fait des études. Ok, t'as fait quelques efforts dans ce sens-là. Mais tu vois, les gens ont fait des études de Bac plus 10 et ils n'ont rien comme travail. Ils crèvent presque de faim. Donc, il faut comprendre. Ça, c'est la façon la plus intelligente de travailler la modestie. Et il faut se répéter ça sans cesse parce qu'on est des malades d'orgueil. Malade, c'est un gentil mot. Des névrosés psychopathiques dangereux, d'accord, de nous-mêmes. Prends, on est la colère. On te fait un petit guili-guili-guili. Tu sais que t'as tort de te mettre en colère. Tu te mets en colère. C'est terrible. C'est terrible. Dernièrement, ça m'est arrivé. Je me suis pas... Moi, je me suis Baruch HaShem. Blain, arat, fut, d'accord. On maîtrise plus ou moins, on va dire comme ça. L'autre jour, je sors en voiture avec ma femme et mes enfants, comme ça. Je vais comme ça, je sors. Il y a quelqu'un qui venait. Peut-être que je suis sorti un peu trop vite, mais je pense même pas. C'est un excité, jeune, comme ça. Il me fait une coup de poisson, comme ça. Je n'ai pas dit un seul mot. Je n'ai pas réagi, rien du tout. J'ai senti en dedans... Je l'ai rattrapé, je lui ai fait... Bon, un truc, ça va, j'ai 55 ans, c'est pour... On commence à jouer les trucs de voiture maintenant, du coup. Mais j'ai senti en moi un truc, c'est inimaginable. Mais, et puis après 5 minutes encore, quand je réfléchissais, je me calme, mais du coup, je réfléchis. Tu vois, il y a une partie en toi, on t'a touché dans ton ego, on t'a fait une queue de poisson. Restons calmes, je raconte cette histoire, c'est presque honteux, d'accord. Mais j'ai remarqué, alors, bien que je suis calme dans ma vie, tout ça, faut pas toucher trop sur le champignon, hein. Tu réagis déjà. J'ai rien dit, mais en moi, déjà, je sentais un truc. C'est là qu'on est, on a un ego phénoménal. Alors, comment on travaille là-dessus? Alors, il y a beaucoup de moyens. Premier moyen, comme je dis, la pensée, savoir et se répéter cela sans cesse. Je vous répète le principe, Moar Shalit à la lèvre. La tête, la raison, la pensée est raisonnable, à la maîtrise sur le cœur. C'est notre corps qui nous fait vivre des films, comme quoi je suis quelqu'un toute la journée, toute la journée, toute la journée. Je. Enfin, il faut donner la vapeur dans le sens inverse, et que la tête te dise, « Ok, mon cher ami, tout ce que tu as, et toi, ok, j'admets, c'est vrai, mais t'as rien fait pour. Au contraire. Dieu t'a donné maintenant un don. Peut-être que tu ne l'utilises pas suffisamment. Les gens disent que je parle bien, je sais bien parler, bah, au Hachem. Moi, je dis, « Oy, va, voy, j'arrive au Lamaba. » On va me taper sur les doigts. Mon cher ami, tu aurais pu faire beaucoup plus. Beaucoup plus. C'est terrible. La responsabilité maintenant peut-être de centaines de gens que tu aurais pu ramener, eux, leurs petits-enfants, ça fait des millions de milliards. Rabbi Ramen Zakai, qui était le, il y a une page entière dans le traité Souka qui parle de ses qualités. C'est le premier au Bet Midrash le matin, le dernier qui était le Bet Midrash. Jamais il dormait au Bet Midrash. Il savait la Kabbalah, il savait le langage des anges, le langage des démons, le langage des palmiers, le langage des flammes. Tout, il connaissait. Et quand il allait mourir, il s'est mis à pleurer. On lui demande pourquoi. Je vois deux chemins devant moi. Un qui va au paradis, un qui va en enfer. Je ne sais pas dans lequel des deux on va me mener. Je veux dire, si on avait un millionnème, nous, de Rabbi Ahmed Zakai, on est pépère. On va là-bas tout droit. Et lui, il ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'en fonction du don que tu as reçu, tu as une responsabilité. Donc quelqu'un, maintenant, il a un don. Il est tout content. On va dire l'exemple de l'argent, après l'autre jour, d'accord? J'ai des millions, mon cher ami. Mais on va te demander des comptes là-dessus. Il y a un type dans ta ville qui avait faim. Oui, bah boy. Quelqu'un, il a un don, je ne sais pas moi. N'importe quel, chacun a des dons pour quelque chose. Alors, il est content. Bon, heureusement qu'il est content. Mais il doit savoir maintenant, c'est pas qu'un don t'a donné comme ça gratuitement. Toi aussi maintenant, une obligation. Maintenant, ça baisse l'orgueil quand on pense maintenant que notre don, c'est qu'en fait une obligation. Une obligation.
Quoi, la chanson, le dessin, ça fait partie de ce genre de don que vous parlez ou... Le pas de passer un vrai...
Non, les dons, par exemple, la mémoire ou des choses comme ça, non?
Si, les choses... Les dons qui t'amènent une responsabilité par rapport aux autres. Ce sont des obligations. Je ne sais pas dans quelle mesure le dessin. Quelqu'un est bon au dessin, peut-être oui. Peut-être qu'il aurait pu faire des choses pour aider plus. Je ne sais pas, il faut réfléchir à la chose. Maintenant, deuxième chose à faire pour avoir la modestie. Je ne suis pas du tout à la bonne place pour vous en parler, mais je vous rappelle ce qui est marqué dans les livres. C'est un très bon exercice. Ne jamais se vanter. C'est dur. Le Zohar à Kadosh, il dit, celui qui se vante, tu es certain qu'il n'a rien. Il est vide. Il est vide. Comme dit ce chazal que j'aime bien répéter tellement il est beau, mais tout le monde l'a entendu très, très, très souvent, c'est en araméen. Istaria belagina kish kish karia. Istaria, une pièce de monnaie. Belagina, dans une amphore. Karia, elle crie. Kish kish. Kish kish sur un araméen il y a 2000 ans, hein, c'est comme shkling shkling aujourd'hui en français ou shklong shklong en belge. D'accord ? Tu prends une pièce de monnaie, tu mets une amphore, tu la secoues, shkling shkling shkling. Le type qui est vide, il n'a rien, il y a une pièce dans toute l'amphore. D'accord ? On l'entend. Tu remplis l'amphore de pièces et tu la fermes, il n'y a rien. Quelqu'un qui est plein, qui est riche, il n'y a pas besoin de dire je suis. Mettez-vous en groupe, parlez. On va voir un pot, endroit cachère bien sûr, on discute. Essaye un quart d'heure de ne pas prendre le micro. Tu ne tiens plus. Tu sens que tu n'existes plus. J'existe. Moi je. Donc un très bon exercice, relativement facile. Fuir les honneurs, numéro 3. Fuir les compliments. Un compliment par... définition, ça fait plaisir. Il n'y a rien au monde qu'on aime plus que nous-mêmes. Quand on dit que t'es quelqu'un de bien, t'es content. Il faut le prendre comme une agression.
Il y a des gens qui ont besoin de ça.
Oui. Nous, on a le besoin, l'obligation de donner des compliments aux autres, beaucoup. Ah, tu me diras, je l'enfonce. Ok, c'est pas mon affaire. Moi, je vais m'occuper de l'amaser des gens. Ce type maintenant, les gens ont besoin ici beaucoup de compliments. C'est nécessaire. Dans le couple, avec les enfants, dans l'éducation, dans tous les domaines.
Je mets un mirchol devant
lui. Pardon ?
Je mets un mirchol.
Oui, tu mets une embûche devant lui, c'est une embûche nécessaire, il faut.
Pour qu'il se travaille.
Non, tu ne fais pas en tant qu'embûche, tu le fais maintenant.
Moi, c'est pour lui faire un compliment.
Voilà, tu as besoin d'être bon avec l'autre. On doit donner de l'amour aux gens. Aimer, c'est dire des compliments. C'est le plus grand don qu'on puisse lui faire. Plus que de l'argent, plus que de tout. Maintenant, lui, il doit se travailler, se dire grâce à Dieu. C'est pas grâce à moi. Dieu m'a donné. C'est un travail.
Comme vous avez dit, c'est j'ai rien fait pour rendre.
Voilà, exactement. Maintenant, malheureux, celui à qui on fait du kavod. Parce que. Forcément, il commence à gonfler. Ah, il doit faire des séances de dégonflage. Je vais vous dire un peu de ma vie, d'accord? Je suis très connu. Partout où je vais, francophone, on me connaît. Baruch HaShem, dans le monde israélien, je suis complètement inconnu. Et où je prie, je suis comme un type normal. Ça veut dire un nul. Je prie juste à côté des toilettes, un endroit tout à fait, même pas en première ligne, en deuxième, en troisième, dans le coin là-bas. Et Baruch HaShem, ça m'aide à remettre les pendules à l'heure. Parce que je ne suis pas un grand Talmid Chacham, je sais bien parler. Je dois le reconnaître, grâce à Dieu, et j'espère qu'on ne va pas trop me taper sur les doigts après à cause de cela. Je reconnais, grâce à Dieu, je n'ai rien fait pour. Parce que tu sais bien parler et que tu es quelqu'un, mon cher ami. En Torah... C'est pas beaucoup plus qu'un avraire normal ici, en Israël. Alors, quand je vis avec les gens normaux, de même, d'accord, et je suis un nul comme eux, enfin, eux, c'est des gens bien, et je suis même pas aussi bien qu'eux, bah, au Hachem, ça m'aide. Mais imaginez que j'habitais la France. Mais tu deviens fou au bout d'un moment. C'est fou. Tu te prends au sérieux. Tu te prends au sérieux. Tu es quand même quelqu'un. Et c'est extrêmement grave. Extrêmement grave.
Mais il faut que vous la Torah.
Les gens doivent faire quoi la Torah, je dis ouais, bien. Mais si, c'est pour ça que c'est dangereux.
Il faut que j'ai une image.
C'est pour ça que c'est dangereux. Les gens qui sont célèbres, ils ont une grande épreuve. Alors moi qui suis célèbre qu'à l'étranger, ça va. Dans mon pays, je suis encore tranquille. Et ma chère viendra bientôt et tout le monde sauront que verront qu'il n'y a pas de quoi s'exciter. Donc ça m'aide, ça m'aurait répondu alors tous les jours. Et si je suis au Shiva, je rentre chez moi, je suis nul, ça va, tout le monde est d'accord. Donc ça remet les pendules à l'heure. Mais quelqu'un, si maintenant, partout où il va, il est au Shiva, problème.
Comment ils ont fait les grands rabbins?
Se battent. Ils se battent terriblement.
Toute la journée, on leur demande des bénédictions.
Ils se battent terriblement. Ils savent très bien qu'ils sont nuls, rien du tout.
Je
vous racontais une fois, mon Ravrouta était très proche de Rabbi Samba Shaoul. Puis un jour, il était allé voir le Rav, il souffrait beaucoup, sa femme était toujours malade, tout ça. Il était un peu déprimé comme ça. Il lui a dit, Kvod Rav, Ben Porat Yosef, on vous connaît dans le monde entier, on écoute vos psakis, ça. Il m'a dit, c'est comme si un serpent l'avait mordu. Il a sauté en arrière, comme un serpent l'avait mordu. C'est un grand d'Israël. Son frère un jour m'a dit, quelqu'un qui est pas Talmid Chacham, c'est pas trop difficile pour lui de travailler sur la modestie, parce qu'il sait qu'il est nul. Quelqu'un qui sait toute la Torah, c'est beaucoup plus dur. Tu sais que t'es quelqu'un, t'es vraiment un grand. Alors te dire que t'es un petit, c'est pas facile, surtout que t'as bossé, on peut pas être grand aujourd'hui magiquement, d'accord? Il faut bosser jour et nuit. Ces gens-là, ils dormaient pas, étudiaient jour et nuit, ils saignaient leur vie. Et après tout, savoir qu'il est un nul, qu'il n'a rien fait pour. Mais bien sûr, c'est un très, très grand travail. Tu vois comment les Gdolim, ils...
Je comprends pas, quoi.
Même
quand on investit dans quelque chose, on finit par aimer la chose un peu... Si on investit dans la Torah, on aime la Torah. En même temps, la Torah, ça nous permet de nous aimer, ça nous permet de nous travailler. Donc forcément, on s'aime, quoi, un peu.
Oui. On peut s'aimer, on doit s'aimer. Mais comme je dis, il faut comprendre que je ne suis pas mieux que les autres. Certainement pas. Et ce que j'ai comme qualité, ce n'est pas grâce à moi. Ça règle tout. Si on comprend ça très bien, tout est réglé. Travail de tête sur le cœur. Maintenant, fuir les honneurs, fuir toutes les positions où on te met en situation d'honneur. Les choses qui sont... auxquelles on s'habitue rapidement. Au début, on n'est pas habitué. Au bout d'un moment, on s'habitue. Après, on devient addicté. Si on n'a plus ça, on souffre. Comme toute addiction, chaque chose sur Terre qui est bonne, plus t'en as, plus t'en veux. Et quand t'en as plus, t'en es malade. Mange du chocolat, une paquette de chocolat, tous les soirs pendant une semaine. Du bon chocolat. Ben, le 8e jour, t'arrêtes, tu souffres. Mais avant, le premier jour, tu ne souffres pas du tout, rien du tout. Chaque chose qui est bonne, on s'habitue. Tous les plaisirs du monde. Et le kavod aussi, ça rentre complètement là-dedans. Un bon moment, un bon endroit pour travailler le kavod, c'est l'eshiva, la chavruta. Très souvent, la chavruta, c'est ton compagnon d'études, hein, tu es ici à deux. Et souvent, tu as tort et lui a raison. Eh bien, accepter d'avoir eu tort, sans aucun problème, on veut la vérité. Un des grands moteurs pour lesquels on étudie à deux, c'est l'ego. Quand tu étudies tout seul, alors tu n'es pas en confrontation, tu es avec le texte, tu penses avoir bien compris, ok, ça va. Dans l'autre, tu dis non, tu n'as rien compris. Tu as un moteur, pac, de non, j'ai bien compris, je vais te le montrer, d'accord? C'est un moteur d'ego. Il est très très bon, ce moteur. C'est pour ça que Razal conseille beaucoup d'étudier à deux. Mais si pour finir, tu n'as pas eu raison, il faut être suffisamment modeste et vrai pour dire, aucun problème, tu as raison.
Justement, si on
chavruta,
ça réveille l'ego.
Je dis. C'est un paradoxe. Les gens qui n'étudient pas en chavruta, ce sont des gens orgueilleux qui n'osent pas ne pas avoir raison par rapport à leur chavruta.
Ils n'osent pas avoir raison.
Ils n'osent pas ne pas avoir raison.
Et donc, grave si on travaille ça. En parallèle, ça nous empêchera de mettre en colère.
Ouais.
C'est ça ?
Absolument. C'est pas un coup de baguette magique. Le vrai travail pour se pas mettre en colère, c'est quand ça vient, pas se mettre en colère. Et ça monte, tu réfrènes. Alors, le Messie de Charim l'explique. Il y en a un, il casse tout. Il y en a un, il casse pas tout, mais il crie. Il insulte. Il y en a un, maintenant, il parle intelligemment, mais il monte le ton. Un, il parle à voix basse, mais on voit qu'il bouille intérieurement. Il boue intérieurement. Un, ça vient la colère et ça part. Et un, il reste calme. Comme raconte la Gemara, et ça, quand je l'ai avec mon rave, on étudie un peu du Moussar, mais c'est Ishari, il m'a dit, ça n'existe plus aujourd'hui, un truc pareil. Hillel Azaken. Hillel, c'est un des grands d'Israël, d'une pauvreté incroyable et d'une humilité extraordinaire. Il ne se mettait jamais en colère. Et un jour, quelqu'un a parié qu'il arrivait à mettre en colère Hillel, qui était le président de l'État. Président. Il vient le voir vendredi après-midi, une demi-heure avant Shabbat. C'est l'heure de pression. Il n'y a aucune heure de pression plus grande durant la semaine que ce moment-là. Et en plus, il y a un grand essai à ce moment-là de se mettre en colère. Les gens qui sont calmes toute la semaine, là, ils peuvent se mettre en colère. C'est connu. Il y a un Yetzer Hara spécial, aussi de Shombayt, de mettre la colère dans les maisons à ce moment-là. Le Yetzer Hara, c'est marqué très bien. Il vient à ce moment-là pour gagner un Shabbat dans la discorde. Il est dans la douche, et quelqu'un rentre, il dit « Hillel, Hillel !» Du genre, tu en Jarvé Yosef, « Obadia, Obadia !» D'accord, on est copains. Président de l'État, le grand rave. Il est en plein dans son shampoing savon, là. Bon, il sort, il s'essuie encore avec le savon, tout ça, il met une robe de chambre. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai une question très importante à vous poser. « Oui, je t'écoute, mon fils. » Pourquoi les gens qui vivent dans le désert, ils ont les pieds plats ? Ah, c'est une très bonne question, mon cher ami. Il donne la réponse. Ok, merci bien. Après, il repart. Après 10 minutes, il y aurait Hillel, Hillel, Hillel. Du coup, il sort en précipitation. Il était dans le deuxième savon. Hop, avec le savon, il sort. Hors de chambre, qu'est-ce que tu as ? Une question très importante. Oui, ben, je t'écoute, mon fils. On n'est plus que 20 minutes avant Shabbat, avant l'entrée de Shabbat. Il doit reprendre sa douche, finir, allumer les bougies, il y a 40 trucs à faire. C'est très important de poser quoi ? Pourquoi les gens qui habitent en Asie, ils ont les yeux bridés ? Pfff, très bonne question, voici la réponse. Troisième fois, le rabbin répond. Il lui dit, c'est bien toi, Hillel ? Oui, c'est moi, Hillel. T'es bien le président ? Oui, c'est moi. Eh bien, qu'il n'y ait pas beaucoup de gens comme toi sur Terre. Il envoie comme ça, balader. Pourquoi ? Parce que tu m'as fait perdre 400 pièces. Pareil que je te mettrais en colère, et je n'ai pas réussi à te mettre en colère. Il est resté complètement calme. Rien. Bon, ça c'est une grandeur, comme m'a dit mon rabbin à l'époque. C'est pas dans notre registre du tout. Mais au moins qu'on arrive à garder ça intérieurement, et baisser, et se calmer. Alors il y a un travail à faire. C'est pas un travail... C'est comme les muscles, d'accord ? On peut pas être sportif du jour au lendemain. Il faut travailler le muscle, comme ça il se muscle. Alors le muscle de la non-colère se travaille quand on est surtout en situation de confrontation. Maintenant, il faut beaucoup y penser, quand on n'est pas en colère maintenant, quelle situation peut me mettre en colère ? Et comment je vais réagir ? Quand ça arrive déjà, hein, la colère, elle arrive que tu n'as pas conscience. Tac, ça t'a attrapé, c'est là trop tard, t'es parti. Il ne faut surtout pas se dire, la prochaine fois, je ne me mets pas en colère. Parce que si on se dit ça, hein, après on se met en colère, pire de s'être mis en colère. On en veut la personne. Je ne voulais pas me mettre en colère, tu m'as mis en colère. Donc on lui en veut pour deux raisons. Hein, parce qu'il m'a embêté, deuxièmement parce qu'il m'a mis en colère. Donc ça ne sert à rien, ça. Il ne faut pas rêver qu'on ne va pas se mettre en colère. On se mettra en colère, mais on va essayer de réfréner. Comment on fait ? Sur place, il y a un travail de gvoura, de se battre, réfréner. Et avant, donc la conscience, on va réfléchir dans toutes les situations qui vont arriver. Comment ça se passera ? Comment je réagis ? Spécialement le vendredi après-midi, avant que Shabbat rentre, s'attendre à la tuile qui va arriver de quelqu'un ou de quelque chose, et ok, le prendre super calme.
Comment on vient ? Vous dites que il y a celui qui reste calme, c'est le plus bon. Mais quand quelqu'un il va t'attaquer sur ton organe ou n'importe quoi, par exemple, il va te toucher, il va dire toi je te défonce. Genre, ouais. C'est pas contrôlable, c'est à l'intérieur, c'est comme vous dites, ça fait pchit, ah, ça ouais. Monte d'un coup. Alors même il va vouloir se contrôler, mais intérieurement ça bouge.
Ok, alors déjà au moins c'est intérieur, c'est déjà bien. Parce qu'il peut. Il y a des gens qui sont en colère, ils perdent complètement le nord. Je connaissais quelqu'un, il m'a dit, une fois il s'est fait arrêter en France. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, il sait qu'il a mis le commissariat complètement à l'envers, d'accord ? Mais il ne se souvient de rien, il m'a dit. Il y a des gens qui perdent complètement la boule. pas trop les mettre en colère. Alors toi maintenant, tu as la réaction. Ok, c'est normal.
C'est même pas toi qui contrôle, c'est tout seul.
Ouais, c'est tout seul maintenant, mais tu contrôles les mains. Ouais. C'est déjà pas mal. Tu contrôles la voix. Tu peux lui répondre en fort, tu peux lui répondre calmement. Alors il y a un truc à faire quand on s'énerve, c'est baisser le ton. Pas en chuchotant. Ça calme. Ça nous calme.
C'est vrai que pendant une histoire, serrer la main à la personne, de ne pas avoir le contact physique.
Aussi, ça s'empêche que l'autre te frappe. Ça, c'est fait pour le calmer lui. D'accord, au niveau, il veut te frapper. On devient copain par ce contact physique, c'est vrai. Maintenant, moi, pour me calmer, qu'est-ce que je fais? On se bagarre, d'accord? Dans un couple, d'accord? Alors, ping-pong, après pétanque, après missile balistique, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour rester dans le ping-pong, d'accord, et pas monter plus, parce que ping-pong, ping-pong, et tu vois, tac, on commence à monter le ton. Toi, tu baisses, tu continues, plus tu commences à rougir, plus tu baisses, tu commences à chuchoter. C'est un moyen qui calme un peu. Et prier, bien sûr. Hachem, c'est lui qui gère tout, et les prières qu'on fait à Hachem pour corriger le mal qu'il y a en nous, c'est celles que Dieu préfère, qui sont les mieux reçues. Et ça aide beaucoup. On a un rabbin aujourd'hui qui est un des plus grands rabbins de ce monde, Rav Chaim Kanievski, il a 80 ans, quelque chose comme ça. Son père, le Stipler, qui était un des plus grands rabbins du monde aussi, quand il avait 80 ans, il disait, moi je prie tous les jours pour mon fils, Chaimke, c'est le Rav Chaim Kanievski. Il avait 60 ans, c'était un des grands rabbins déjà du monde. Je prie tous les jours pour mon fils. Donc, même à 80 ans, il priait pour son fils de 60 ans. Donc nous, on peut prier sur nous-mêmes aussi, pour Zat Hashem, arriver à un niveau minimal d'humilité, Zat Hashem. Le Mashiach, c'est marqué, il viendra qu'on n'aura plus de gens orgueilleux. Ah, je ne sais pas quand ça sera. Peut-être que Dieu fera un truc tellement terrible que tout le monde va se calmer, d'accord. Mais c'est clair qu'il y a un grand travail à faire sur ce sujet. La grande crise de Shalom Bayit qu'il y a dans le monde entier, ça provient de cela. La cause numéro un du problème de Shalom Bayit, c'est l'orgueil. Personne n'est prêt à s'écraser devant l'autre, à écouter l'autre, à aller dans le sens de l'autre, d'accord? À donner de soi-même, à moins penser à lui-même.
Grave qui dit colère, dit égo, entre guillemets.
Absolument. Absolument.
C'est pas bien d'avoir un peu d'égo. C'est-à-dire, si on n'a pas d'égo, on n'est pas complètement effacé.
Alors j'ai dit, c'est début de mon cours. Faut pas dire, je suis nul, j'ai rien. J'ai beaucoup de qualités. Et je sais, je connais mes qualités. Et c'est vrai que je les ai, mais je n'ai rien fait pour. Donc ce n'est pas que je me prends pour rien. Enfin, oui, je me prends pour rien, mais ce n'est pas que je suis un nul, je ne suis pas mauvais. Je suis bon, je suis choyé par Hachem, je suis un diamant. Mais le diamant ne va pas commencer à dire au saphir, t'as vu, t'es un nul, moi je suis un diamant. Mon cher ami, on t'a créé diamant, qu'est-ce que de quoi tu te vantes? On n'a pas de quoi se vanter, parce qu'on n'a rien fait pour. Mais on sait que nous sommes des diamants, il ne faut pas oublier ça, que nous sommes des diamants. Très important.
Et de s'écraser, c'est quand même un très bon trait de caractère aussi.
Excellent.
Si on arrive à se le dire quand la dispute éclate.
Absolument. Traimanava, il y a du moussard, il faut lire beaucoup de moussard là-dessus. Moi, je lis essentiellement là-dessus. Je suis passionné sur ce sujet, j'ai beaucoup de travail à faire. Mais ça aide au bout d'un moment. Tu comprends que dans une bagarre ou un truc machin, tu as réussi à ne rien dire. C'est un point.
Vous aidez quoi, non?
J'ai dit très souvent, il y a une série de livres en hébreu, c'est une grande mitzvah à traduire en français, qui s'appelle Tikkun HaMidot, la réparation des Midot. C'est un rabbin, Aram Tobolsky, qui a écrit cela. Il a pris une anthologie de tout ce qu'il y a d'au moins 200 livres, tout ce qu'il y a de possible imaginable, d'écrits de Chazal, d'histoires, de Tzadikim, des Tanaïm, de l'époque, tout ça, avec beaucoup d'exemples, des combines à faire, tout ça. Il y a un bouquin sur la Nava, un gros bouquin comme ça. Il y a sur la colère, il y a sur. Quand il y a une bagarre, arriver à se retenir. Il y a sur la vérité, ne pas mentir, il y a sur faire attention à l'argent de son prochain, ne pas voler. C'est des livres remarquables. Ils existent qu'en hébreu.
Pas en anglais.
Pas en anglais non plus. Peut-être Torah Box va peut-être commencer à en traduire. J'en ai parlé, j'espère qu'ils m'ont écouté. Peut-être c'est en train de se faire. C'est fantastique, ces livres-là sont très très recommandés. Alors le moussard, tu vois des exemples de rabbins, comment ils ont réagi. Et quand ça renforce ta conscience, et quand tu arrives en situation d'épreuve, alors tu as envie de t'écraser. C'est marqué que la Torah, nous on veut tous avoir beaucoup de Torah, c'est marqué que la Torah se dévoile, que c'est comme l'eau. La Torah est comparée à de l'eau. L'eau, c'est marqué dans la Torah plusieurs fois que la Torah est comparée à l'eau, l'eau elle descend. Elle s'arrête où? En droit le plus bas. Tu trouves la Torah chez les gens qui sont humble, bas. Combien, dit la Gemara dans les Ouvrines, page 54, comme le seuil de la porte que tout le monde écrase. Tu te mets à la porte, comme ça, à chaque fois que quelqu'un passe, tac, il te donne un coup de pied. Et tu t'écrases.
Très bien, les vents français, spécialement sur le savoir s'écraser face à
la... Je pense, c'est les livres sur la colère, les bouquins sur la colère, ouais. Il y en a deux.
Par rapport à ce point-là, je me posais une question. On voit souvent des... Enfin, on voit parfois des raves et des personnes qui courent à leur rencontre pour aller leur embrasser la main.
Oui.
Quelle est la position de Bob?
C'est ce qu'il a dit ici. Il y a l'obligation qui est kvod à Torah. Ce n'est pas leur kvod à eux, leur honneur à eux. Eux représentent la Torah, donc il faut honorer la Torah. Eux doivent comprendre que ce n'est pas eux perso qu'on fait l'honneur, c'est la Torah qui est en eux. Et ils doivent travailler beaucoup pour ne pas tomber dans le piège et rester humbles.
C'est un problème de ne pas leur faire.
Oui, c'est un problème. Tu n'es pas obligé d'aller embrasser la main, mais c'est un problème de ne pas faire honneur à la Torah.
Je veux dire, si on voit des gens le faire, mais que nous, on se sent un peu gêné, on ne veut pas le dire.
Pourquoi tu ne veux pas? Parce que tu as peur que ça soit.
Non,
ça
me sent pas.
Attends que le type, c'est pas un type bien.
Pas du tout.
Aucun problème.
C'est un type bien.
Ah, c'est un type bien, alors.
Non, c'est un type bien, bien sûr.
Tu ne sens pas au niveau.
C'est ton orgueil peut-être qui t'empêche.
Non, justement.
Alors c'est quoi?
Je ne le vois pas, moi c'est la main.
Pourquoi?
Mis à part mon père, quoi.
Pourquoi? Il faut réfléchir pourquoi.
Réfléchis,
réfléchis et tu sauras. Ou c'est notre orgueil, ou on a peur des microbes, ou faut voir.
Des fois, on dit qu'on n'est pas un niveau.
D'embrasser la main,
ouais.
Ok, ça va.
Il bon.
y a des grands tzadikim, quand on va, on leur embrasse un maham. On va dire à d'autres comme ça. Ça se faisait chez les Sfaradim beaucoup. Chez Ashkadim, pas du tout.
C'est des
transmets, c'est parce que... On doit s'arrêter, désolé. Baruch Adonai, Amen.